sans plus tarder, commençons avec Aude Mirkovic, avec l'actualité de la loi bioéthique. Il s'est passé des choses pendant l'été, avant l'été, mais ce n'est pas fini. C'est ce que nous allons voir. Aude Mirkovic, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de conférence en droit privé, porte-parole de l'association Juriste pour l'enfance. Vous êtes aussi l'auteur de PMA, un enjeu de société chez Arteje, paru en 2018. Et bientôt, vous allez sortir en rouge et noir un roman qui est publié chez Paris Première. Enfin, c'est une nouvelle édition, je crois, qui est à paraître en 2020.
Première partie. En fait, il est déjà sorti. C'est une réédition de mon roman En rouge et noir chez Première partie. Il est déjà disponible depuis quelques mois.
Parfait. Vous êtes très mobilisé avec votre association Juriste pour l'enfance contre le projet de loi bioéthique. Où en est-on dans ce projet, Aude Mirkovic ?
Alors, ce projet de loi bioéthique a été voté par l'Assemblée nationale en seconde lecture fin juillet. Donc, il va revenir maintenant en seconde lecture toujours au Sénat, après les élections sénatoriales. Et si le Sénat modifie le texte, ce qui va très certainement arriver, il y aura alors une commission mixte paritaire. Donc en effet, ça n'est pas terminé.
Donc on peut continuer à se mobiliser
Bah oui, parce que contrairement à ce que certains ont pu dire de façon un petit peu rapide cet été, ce n'est pas fini. Le projet de loi a été adopté par l'Assemblée, mais il doit encore repasser au Sénat. Et on peut encore dire stop, on peut encore dire qu'on ne veut pas de ce projet de loi.
Alors pourquoi on veut s'opposer à ce projet ? Qu'est-ce qui est vraiment, qui est fondamentalement mauvais dans ce projet ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu cette loi bioéthique, son contenu, Aude Mirkovic ?
Alors en deux mots, la mesure phare du projet de loi, c'est ce qu'on appelle la PMA, la procréation médicalement assistée pour les femmes. Il s'agit d'organiser légalement l'insémination par des donneurs de femmes célibataires en couple de femmes. Concrètement, pour les enfants issus de ces PMA, ils seront interdits par la loi, et par le code civil, d'avoir leur lignée paternelle. C'est-à-dire qu'ils sont privés volontairement et délibérément d'une branche de leur généalogie. Et puis, ça c'est déjà une injustice, mais en fait c'est que la partie visible de l'iceberg. Parce qu'aujourd'hui la PMA est réservée aux situations d'infertilité, mais le projet de loi justement supprime cette exigence d'infertilité, puisque des femmes seules ou en couple de femmes ne sont pas infertiles. C'est leur situation qui ne permet pas la procréation. Et donc ça veut dire qu'en fait la PMA, si le projet de loi est adopté définitivement, sera accessible également aux couples hommes-femmes fertiles, qui sont numériquement les plus nombreux et qui sont la cible réelle du grand marché, du business de l'humain, de la procréation, qui est le véritable moteur de ce projet.
Alors il y avait un salon d'ailleurs, vous parlez de marché, en septembre, intitulé Désir d'enfant. Vous y êtes allé, je crois, ou en tout cas vous avez étudié de près ce salon qui traduit ce que vous anticipez. C'est déjà en route, ce marché des enfants.
Alors tout à fait, le 5 et 6 décembre dernier, s'est tenu à l'espace Champéret à Paris, un salon intitulé Désir d'enfant, qui réunissait des cliniques de la fertilité étrangère, qui donc spécialisées dans ce business de la fertilité, qui étaient là pour proposer aux clients des prestations commerciales de PMA, procréation médicalement assistée, ou de GPA, gestation pour autrui, à réaliser à l'étranger, puisque la France actuellement, et c'est tout à son honneur, ne permet pas cette marchandisation des corps et de la procréation. Alors ce salon permet d'avoir une idée un petit peu concrète de ce que signifie ce business. C'est-à-dire que les commerciaux des sociétés étrangères étaient là pour présenter des catalogues, pour choisir des fournisseuses d'ovocytes, des fournisseurs de sperme, sélectionner des embryons, louer une mère porteuse. Donc on pouvait aussi, si on est un peu trop âgé pour faire une PMA en France, faire une fécondation in vitro à l'étranger, donc à 55 ans, 60 ans. Et donc on avait vraiment des choses très choquantes sous les yeux, c'est pour ça que c'était très concret. Donc on pouvait choisir sa fournisseuse, enfin on parle de donneuse, mais ce sont des vendeuses d'ovocytes. Alors on avait sa photo, on avait des catalogues avec les photos, les mensurations, des renseignements sur les femmes. Et puis ça coûte plus cher évidemment si elles ont fait des études. Et puis on a même un enregistrement d'une vidéo où la commerciale d'une de ces cliniques explique à un couple qui est là pour se renseigner sur la gestation pour autrui parce qu'eux-mêmes sont âgés. Il dit, écoutez, on vous garantit un enfant en bonne santé, mais si ça n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, vous pourrez refuser l'enfant, il ira à l'orphelinat et on vous fera une autre GPA gratuite pour avoir un autre enfant. Voilà, donc c'est ça hein, le business.
Alors, C'est assez sidérant, c'est impressionnant. Est-ce qu'on peut s'opposer à ce type de rouleau compresseur du marché des enfants? Est-ce qu'il y a des moyens de bloquer? Est-ce qu'il y a eu des procès qui ont été faits contre Salon ou non? Tout ça peut se faire dans la légalité sur le sol français?
Alors, cela se fait dans l'illégalité la plus totale. Ce sont des infractions pénales, délits d'entremise, vente d'ovocytes, vente d'embryons. Mais notre association Juriste pour l'enfance a déposé avec les AFC deux recours en référé liberté, donc en urgence, devant le tribunal administratif de Paris. Ils ont été balayés sans même une audience parce que la juge a voulu considérer que c'était des simples réunions sur le thème de la GPA, comme s'il s'agissait seulement de débattre du sujet, ce qui est de la liberté de chacun. On est un pays libre, on peut débattre de tout, très bien. Mais non, en fait, il ne s'agissait pas de débattre de la GPA. Il s'agissait de vendre des prestations de gestation pour autrui. Et d'ailleurs, le directeur du salon ne s'en est pas du tout caché. Il a déclaré à la presse, je cite, « Bien sûr que je vends hein. ». C'est-à-dire que les sociétés ukrainiennes et américaines qui ont fait le déplacement à Paris, ce n'était pas pour faire de la figuration. Ils étaient là pour vendre des ovocytes, du sperme, des embryons, louer des femmes, etc. Alors, comme les autorités françaises n'ont pas levé le petit doigt, ont laissé se tenir ce salon du commerce humain. Nous déposons maintenant une plainte pénale, aujourd'hui même. C'est une action commune de Juristes pour l'enfance, de la Manif pour tous et des AFC. Et nous allons donc déposer une plainte au pénal.
L'organisation de ce salon.
Voilà, ce qui est incroyable, c'est que nous n'avons eu aucun mal à rédiger cette plainte. C'est-à-dire que les coupables plaident coupables. Ces sociétés nous ont fourni avec de grands sourires tous les éléments de preuve. Parce qu'en fait, ils ne se cachent pas du tout. C'est leur fonds de commerce, c'est leur business. Donc, ce qui est dramatique, c'est que justement, il faille des associations comme nous pour déposer des plaintes, parce que les procureurs ne font pas leur travail. Mais bon, du coup, c'est ce que nous avons fait pour essayer d'obliger la justice à agir.
S'ils vous donnent les documents avec le sourire, est-ce que c'est précisément parce qu'ils attendent ce procès pour pouvoir ensuite se tourner vers les pouvoirs publics et dire, voyez, on est dans une situation qui rend difficile ce marché, ça se fait ailleurs, il faut s'aligner sur l'étranger. Comme pour la PMA, ça a été l'argument qui a été utilisé, ou l'adoption d'enfants par des couples homosexuels, de dire ça se fait ailleurs, donc il faut s'aligner.
Alors, je pense qu'ils nous fournissent tous les éléments de preuve. Il y a vraiment, il y a aucune retenue. Justement, voilà, si l'enfant ne vous convient pas, c'est pas grave, vous le refusez, on le mettra à l'orphelinat et on vous en refait un autre qui conviendra mieux. Vous voyez, je pense qu'on peut pas être plus clair. C'est parce qu'ils ont l'habitude d'agir dans l'impunité. En effet, il y a un double discours. Il y a officiellement l'attachement au principe de la bioéthique française, à savoir la non-marchandisation des corps, le respect de la dignité humaine. Voilà. Et puis en pratique, eh bien, on laisse faire ce genre d'événement. Mais l'argument du « ça se fait ailleurs », franchement, ne peut pas convaincre. Justement, encore une fois, c'est l'honneur de la France de refuser ce business. C'est vrai que derrière les promoteurs du projet de loi bioéthique, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien rapatrier en France les profits de ces cliniques belges, espagnoles, ukrainiennes. Mais non, on ne fait pas d'argent, on ne fait pas de business sur l'humain. L'humain qui fournit la matière première, les gamètes, les embryons, les ventres, et l'humain qui est à la fois le matériau et le consommateur. Donc, c'est partout dans le monde, on peut trouver le moyen de réaliser presque tout. Si j'ai 68 ans, je peux aller faire une FIV en Inde.
Une
fécondation in vitro en Inde, donc je vais choisir une donneuse d'ovocytes, je vais choisir un fournisseur de sperme si j'en ai pas. On va faire un embryon avec un petit traitement hormonal. À 68 ans, on pourra porter cet enfant et donc être mère pour la retraite. On peut aller en Chine faire des bébés génétiquement modifiés. On peut aller aux États-Unis pour faire une fécondation in vitro, justement, juste pour choisir le sexe de l'enfant. Bon, voilà, on peut tout faire quelque chose sur la planète. Donc, à moins de vraiment complètement baisser les bras et de tout légaliser en France, on voit bien qu'il faut garder le cap et maintenir la loi. Et puis déjà commencer par faire respecter celle qui existe. Parce que là, aujourd'hui, ce salon se tient en contrariété à la loi française. Mais le but du projet de loi bioéthique, c'est de commencer à donner un fondement légal à ces pratiques. Parce que pour l'instant, beaucoup de choses qui étaient proposées tombent sous le coup de la loi française. Mais le moteur du projet de loi bioéthique, c'est de commencer à libéraliser le marché. Déjà rien qu'en élargissant le public. Aujourd'hui, on a accès à la PMA, les couples hommes-femmes infertiles. On voudrait élargir ce public de consommateurs. Donc les femmes célibataires, les couples de femmes, mais aussi les couples hommes-femmes fertiles qui vont peut-être demander des fécondations in vitro, justement, pour choisir le sexe de l'enfant, comme aux États-Unis, éviter un strabisme ou autre, comme ça se fait en Grande-Bretagne, etc.
Alors, vous êtes donc sur le terrain judiciaire, on l'a bien compris, votre association porte plainte, ce qui n'est pas à la portée de tous nos auditeurs. Est-ce qu'il y a d'autres voies d'action qui peuvent être proposées à nos auditeurs? Et puis, comment ils peuvent vous contacter? Alors, votre association, elle est en ligne, elle a un site, un numéro de téléphone?
Alors, pour nous contacter, c'est très simple. Nous avons un site www.juriste.com. Donc, il est tout à fait facile de nous aider et de nous contacter. Et puis, oui, bien sûr, chacun peut faire quelque chose. C'est sûr que les procès, c'est plutôt notre rayon à nous, les juristes. Mais enfin, tout le monde est concerné. Hein. La loi, c'est l'affaire de tous. Et nous pouvons tous faire quelque chose, à commencer par rejoindre une manifestation le 10 octobre prochain. Samedi 10 octobre auront lieu dans plus de 50 villes de France des manifestations pour demander le retrait du projet de loi bioéthique à l'appel du collectif Marchons Enfants, qui regroupe 22 associations, dont Juriste pour l'enfance, dont je fais partie, mais aussi parmi les plus grosses, la Manif pour tous, les AFC, Vita. Donc il y a forcément une manifestation dans votre ville, vous qui nous écoutez. Il suffit d'aller sur le site de Marchons Enfants et puis de voir pour sa ville quel est le lieu et l'horaire du rendez-vous.
Alors dès qu'on parle de manifestation, il y a au moins deux questions qui reviennent. La première, c'est que tout le monde ne peut pas manifester. Est-ce qu'il y a encore d'autres voies que la manifestation? Et deuxièmement, toutes ces manifestations, pourquoi faire? On va encore marcher poliment, tant bien élevé, on ne va pas faire tomber un papier gras par terre. Et pourtant, la vie continuera comme avant, parce qu'on ne nous recevra peut-être même pas.
Alors, il y a deux questions. Donc, dans l'ordre, c'est vrai que tout le monde ne peut pas manifester, tout le monde n'est pas disponible. En plus, mais c'est pas grave, c'est une action parmi d'autres. Et on peut tous déjà aider à ce que ceux qui vont aller manifester, on peut aider à donner de la répercussion à ces manifestations, tout simplement en faisant passer l'information, en transmettant les mails, en donnant le tract peut-être qu'on a reçu, en le mettant dans la boîte aux lettres de ses voisins. Et puis aussi en faisant des dons aux associations qui s'investissent pour cette journée, pour les aider à communiquer et à avoir les moyens de faire passer le message. Tout le monde peut écrire à son sénateur. Là, le projet de loi arrive au Sénat. Bon, il y a les élections sénatoriales qui vont se tenir bientôt. Et bien, dès qu'elles sont terminées, on peut tous écrire à notre sénateur. On peut acheter des livres. Moi, je ne sais pas, le mien sur la PMA, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont très bien. Le lire, le prêter, l'offrir. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et puis alors, sur la manifestation précisément, pourquoi aller encore manifester? Eh bien, pourquoi rester chez soi dans son canapé, hein? Voilà, je veux dire, si quelqu'un me trouve une bonne raison de rester chez soi, pourquoi pas? Mais c'est sûr que si on ne fait rien, ce projet de loi ira au bout. Déjà, si ce salon Désir d'enfance est tenu à Paris début septembre, c'est parce que ses organisateurs étaient persuadés que le projet bioéthique serait déjà adopté depuis longtemps en France. Et on est encore en deuxième lecture, et ce n'est pas encore arrivé au Sénat. Donc le temps joue pour nous, le temps permet cette prise de conscience. D'autant plus que pratiquement les promoteurs de ce projet de loi finissent par nous rendre service parce qu'ils n'ont pas de limite et ils vont trop loin. Regardez, en juillet, en catimini, pendant la nuit, ils ont adopté un amendement qui permet l'avortement à 9 mois, jusqu'à la veille de l'accouchement, à 9 mois de grossesse d'un enfant qui n'est pas en pleine santé pour cause de détresse psychosociale de la mère. Alors, est-ce qu'on n'a pas autre chose à proposer à une femme qui est en grande détresse psychosociale que de mettre fin à la vie de son enfant? Et ça, cet avortement d'un enfant à 9 mois de grossesse a déclenché une vague d'indignation qui était presque inespérée, qui a réveillé beaucoup de gens, y compris parmi les gens qui étaient un petit peu lassés justement d'aller manifester. Ils se disaient « non, mais trop, c'est trop !» Et puis on a entendu des prises de parole. Michel Onfray n'a pas hésité à parler d'infanticide légal. Vous voyez, donc cette prise de conscience, elle se fait, mais elle ne se fera pas toute seule. Elle se fera grâce à nous, grâce à chacun. Et parfois, rien que d'imprimer un article, de le faire lire à une personne, ça paraît modeste, mais entre quelque chose et rien, il y a un abîme. Voilà, donc à chacun de nous de contribuer à cet effort commun.
Très bien. Pour revenir peut-être sur leur stratégie, à chaque fois, et je vous ai déjà reçu plusieurs fois sur ce, dans cette émission. Vous m'aviez dit au moment du Pax, attention, ils vont préparer le mariage. Au moment du mariage, attention, le mariage homosexuel, c'est pour la PMA. Et maintenant, la PMA, c'est pour la GPA. Quel est le coup d'après? Donc là, on a l'infanticide possible jusqu'à 9 mois. On sait qu'aux États-Unis, des universitaires, je pense notamment à ce célèbre universitaire de l'université de Princeton, qui considère qu'on peut, et qui défend, qui est en train de propager cette idée qu'on peut se débarrasser de son enfant jusqu'à 7 ans, puisque c'est l'âge de raison. Et donc, tant qu'il n'a pas l'âge de raison, on peut tout à fait mettre fin à ses jours. Est-ce que ça, c'est le coup d'après que vous voyez déjà venir dans certains milieux, ou est-ce que vous en avez d'autres que vous avez identifiés? Après PMA, GPA, est-ce qu'il faut déjà se préparer à d'autres combats? Même si ceux-là ne sont pas terminés, bien sûr.
Alors, ceux-là sont loin d'être terminés. Ils ne le seront jamais tant qu'on n'aura pas remis les choses en ordre, hein, et le respect de la dignité humaine au cœur de notre vie sociale, et y compris notre législation. Mais toutes ces étapes que vous évoquez, elles sont presque déjà là. En fait, c'est l'eugénisme, c'est la sélection. Je sélectionne l'enfant sur mesure. Et s'il ne convient pas, bah, après tout, qu'il ait 9 mois de grossesse, 2 ans, 6 ans. On voit déjà aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le rehoming. C'est l'adoption de la seconde chance. Quand une adoption ne marche pas, on remet l'enfant sur le marché, si je puis dire. Et donc, il y a des gens qui adoptent un enfant pour la deuxième fois. Alors, ceux qui le font sont sans doute exemplaires. En fait, ils veulent offrir une famille à ces enfants qui ont été délaissés par leur première famille adoptive. Vous voyez, c'est déjà révélateur. Mais c'est normal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans le monde du chacun pour soi et de la loi du plus fort, il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. Et justement, l'avantage, entre guillemets, c'est que le fait de franchir ces limites, ça permet quand même à beaucoup de gens de se dire « bon, trop, c'est trop ». Et là, il faut dire stop. Et une fois qu'on va dire stop, eh bien, on va refonder le droit de la famille, les relations sociales sur du solide et sur le respect de tous.
Merci beaucoup, Aude Mirkovic. Vous avez compris, chers auditeurs, il faut repartir au combat. Donc, rendez-vous aux manifestations, vous nous avez dit, le 10 octobre prochain. Dans plus de 50 villes, il y aura des actions. Deuxièmement, soutenir ce Juriste pour l'enfance, votre association qui...
Quelle bonne idée!
Voilà. notamment fait des procès. Et puis, troisième chose, écrire à ces parlementaires, leur mettre la pression, ne pas les lâcher pour inverser cette tendance. Est-ce que vous voulez un mot de conclusion, Aude Mirkovic, avant de nous quitter, puisque je sais que vous devez repartir dans le sud de la France?
Écoutez, merci beaucoup. Le mot de la fin, pour moi, c'est rien n'est joué, tout est possible, l'histoire n'est pas écrite à l'avance, et en tout cas, tout sauf se résigner et rester les bras ballants.
Merci, Aude Mirkovic, à très bientôt à l'antenne de Radio Courtoisie.
Merci, Max Laurent.
Au revoir.